Bonjour tout le monde, bienvenue dans les maisons du Seigneur, nous allons commencer. Je vous invite à vous mettre debout s'il vous plaît. Dieu notre Père, nous avons encore sujet à te rendre gloire, parce que tu nous aimes, parce que tu as pris soin de chacun de nous tout au long de cette semaine. Et nous voulons t'offrir tout ce que nous avons sur le cœur, parce que tu en es digne. Merci de nous purifier, nous sanctifier, afin que nos prières puissent monter jusqu'à toi. Que tu puisses prendre plaisir à tout ce qui sera fait, toutes ces louanges qui monteront vers toi, toute cette adoration, toutes ces prières qui monteront vers toi. Que tu puisses nous bénir, tu puisses aussi nous disposer à écouter ta parole par la bouche de ton serviteur qui nous parlera de ta part tout à l'heure. Que tu puisses nous bénir au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un premier texte, c'est le psaume 116, versets 1 à 19, dans la version Louis II, où il est dit ceci. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. » Juste petite précision, donc au verset 6, l'Éternel garde les simples. Les simples ici, c'est toutes les personnes qui sont droites dans leur voie. L'Éternel garde les simples. Là, nous pouvons constater différentes situations, que ce soit politique, que ce soit géopolitique, tout ce qui est actuellement. Et nous voyons qu'il y a des discussions qui sont faites, il y a des discours qui sont faits, mais on ne s'écoute pas forcément. Même dans différentes situations, on ne s'écoute pas forcément. C'est des fois, il y a une fin de non-recevoir. Quand on s'adresse à l'Éternel, le psalmiste dit « L'Éternel m'écoute ». L'Éternel entend ma voix. L'Éternel me délivre. Donc nous avons la grâce de pouvoir nous adresser à un Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est de pierre, qui est de bois, qui est là, qui est inerte, qui n'entend pas, qui n'écoute pas, qui ne répond pas. Mais il est là, il nous entend, il nous écoute et il nous répond. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. C'est le premier chant que nous allons chanter.
Miséricordieux et juste, il coquerelle toute ma vie. J'aime l'éternel, j'aime l'éternel, j'aime l'éternel.
Amen, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il me répond. Qui c'est dans la salle qui a déjà invoqué l'Éternel et l'Éternel a déjà répondu? Vous pouvez lever la main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons encore offrir à Dieu ce chant. Nous voici Seigneur pour louer ton nom. Nous ne venons pas juste pour venir, mais nous venons pour louer Dieu. Nous pouvons louer Dieu chez nous, mais nous nous rassemblons. Nous louons Dieu dans la communauté. Nous louons Dieu. Nous voici Seigneur. Pour louer ton nom.
Nous voici Seigneur pour louer ton nom. Pour te donner le meilleur de nos temps, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs brilleux de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir. Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos temps, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs brilleux de joie. Abba Père, et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur.
Amen.
C'est toi.
Amen. Je vous laisse vous asseoir et faisons monter quelques prières à notre Dieu. Louons Dieu. Amen. Merci à notre frère Eben pour cette introduction, pour notre prochain chant. À celui qui nous aime, comme disait notre frère Gilbert, qui est revenu parmi nous, bien, bon retour. Effectivement, Dieu, quand il nous a sauvés, il a fait de nous des serviteurs. Donc il ne nous a pas sauvés juste pour nous sauver, mais il a fait de nous des serviteurs. Donc à celui qui nous aime, qui nous a délivrés, à lui soit la gloire. Je vous invite à chanter ce chant.
Son sang. gloire et la puissance à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles.
Amen. Quand nous voyons l'étendue de l'amour de Dieu pour chacun de nous, il nous connaissait déjà même avant que nous naissions. Et il nous a aimés d'un amour qui sera indescriptible avec les mots que nous avons pour pouvoir exprimer l'amour que nous avons. La parole de Dieu nous dit, quand bien même une mère rejetterait, abandonnerait son fils, son enfant, l'Éternel le recueillerait. Dieu nous aime au-delà de tout cela. Son amour est extravagant. Il est inconditionnel, mais il nous aime. Mais il nous aime vraiment. Que nous puissions encore une fois de plus prendre conscience de l'amour de Dieu envers chacun de nous. Des personnes peuvent nous aimer, peuvent nous abandonner, mais Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. Nous pouvons chuter, il nous relève. Ce n'est pas une incitation à chuter, ce n'est pas une incitation à pécher. Mais Dieu est là, Dieu nous relève, Dieu nous aime. Le diable nous fait croire à certaines personnes qu'il les aime, propose différentes choses. Mais l'amour qu'il a pour ces personnes, c'est la perdition. L'amour de Dieu, c'est le salut.
Déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge.
songe tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, les monts trop élevés pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. L'ombre n'est trop sombre, les monts trop élevés pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, les monts trop élevés pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Sans le chant, en le rechantant, on voit encore la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu envers chacun. Quel que soit ce que nous avons fait, que personne ne se sente trop loin, trop sale, trop méprisable pour venir devant Dieu, pour venir à Dieu. Quelle que soit la personne, quel que soit ce qui a été commis, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la façon qu'on le voit, approchons-nous de Dieu. Dieu ne rejette personne. Quelle que soit la couleur du péché, Dieu accepte chacun. Donc ne vous sentez pas, ne nous sentons pas trop loin, trop mauvais pour nous approcher de Dieu, disant non, c'est seulement le pasteur, seulement le groupe de louanges, seulement les responsables qui peuvent. Eux, ils sont bien. Non. Tout le monde peut, doit s'approcher de Dieu. Prenons encore quelques instants pour louer notre Dieu. Amen. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi est-ce que nous nous en glorifions? Des fois, nous avons certaines choses, enfin, nous pensons avoir des choses, et des fois, nous gardons des zones. On ne veut pas que Dieu rentre dans certaines zones. On veut garder certaines parties pour nous, le contrôle sur certaines choses. Alors que nous devons tout abandonner à Dieu. Il nous a tout donné, on devrait tout abandonner. Le prochain chant, en guise d'introduction à la prédication... Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
sur mon cœur.
Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre frère pour la prédication.
Opération escargot avec moi, j'avais du mal à marcher. Mais je bénis le Seigneur, je suis debout ce matin. Et je pourrais non pas vous délivrer un message, mais toute réflexion comme ça, j'ai jeté sur une feuille, pas hier soir, hein, rassurez-vous. Mais quand le pasteur m'a dit je suis de prédication le 22 mai, je me suis dit le thème est tout trouvé. Qu'est-ce qu'on célèbre le 22 mai chez nous?
On célèbre pas l'esclavage, on célèbre l'abolition. Merci. Et le 27 mai, c'est en Guadeloupe. Vous ne connaissez pas les Guadeloupéens? Gilbert. Non? Et en Guyane. Et puis, jusqu'à ce matin encore, je recevais des invitations à marches commémoratives, etc. Bref. Mais le 10 mai, c'est à Paris. Et le 10 mai, enfin, c'était à Paris, ils ont inauguré une statue dans le 17e, dévoilant une femme, si nommée Solitude. Vous la connaissez, Solitude? Et quelqu'un disait, c'est une victoire. Et pour beaucoup d'Antillais, qu'est-ce que ça rapporte à la communauté noire? Bon, chacun a son avis dessus. C'est du passé, on n'est pas esclave, on n'est plus esclave, on n'a jamais été esclave, et puis, bon. Et pour d'autres, c'est devoir de mémoire. Alors, quand on lit la Bible, Dieu demandait quand même aux Israélites, à chaque victoire, à chaque passage, en quelque part, d'installer une stèle ou un autel en mémoire. N'est-ce pas? Et c'est notre génération qui doit transmettre aux générations futures ce qu'a été nos descendants, notre vie passée. Et j'ai un cousin qui est très engagé dans cette affaire, l'arbre généalogique, la roue ascendante. Et il est remonté très loin jusqu'au numéro qu'on attribuait aux esclaves à l'époque. Et il veut continuer. Et même des livres sont sortis dessus pour, si vous voulez chercher votre généalogie, sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Romains chapitre 1, verset 1, c'est ce qui me sert de texte de base ce matin. L'apôtre Paul dit, Paul, esclave du Seigneur Jésus-Christ. Ah, je sais, vous avez serviteur là. Et presque toutes les Bibles ont traduit serviteur. Darby et puis le texte grec ont traduit, de toute façon, littéralement c'est doulos, c'est esclave. Paul dit trois choses dans ce texte, mais je m'arrêterai à une seule chose, c'est le statut d'esclave. Il dit esclave du Christ Jésus, il est appelé à être apôtre et il est mis à part pour l'évangile de Dieu. Et c'est un peu notre responsabilité aujourd'hui, n'est-ce pas? D'accord. Donc je ne suis pas le seul. Mais quand on dit qu'on n'est pas esclave, si on regarde bien le calendrier, 170 ans, c'est pas loin. Hein? N'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, j'entends des gens dire, bon, laisse-moi aller faire le travail du béquet. N'est-ce pas? C'est qu'il y a toujours une notion derrière. Mais pour beaucoup encore, je n'ai plus les chaînes, mais la conscience est encore plongée dans ce système-là. Bref. Mais d'emblée, Paul veut qu'on sache qui il est. Il n'est plus le persécuteur d'autrefois, il n'est plus l'esclave d'un parti religieux, en l'occurrence les pharisiens, ni même de la religion, et beaucoup sont esclaves de la religion. Mais Paul dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Et plus tard, il dira, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Paul a fait un virage 360 degrés ce n'est plus le même. Et aujourd'hui, est-ce que tu es le même après avoir rencontré Jésus-Christ? Si tu es le même, c'est rien passé. Allô? En principe, si tu as rencontré Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose. Et Saul, devenu Paul, dit qu'il appartient à Jésus-Christ et à rien d'autre. Et ce matin, nous n'allons pas étudier tout le verset, hein, juste le verset premier, nous n'allons pas tout étudier. Peut-être que je reviendrai un autre jour. Mais qui n'a jamais dit « Je ne suis l'esclave de personne » ? On a eu l'occasion de dire ça. Et il y a quelques années, j'étais couché à l'hôpital. Je ne savais même plus, c'était le 22 mai. Et une infirmière s'est présentée à moi et puis je discernais qu'elle était un peu antillaise. Et elle m'a dit « Je me suis réveillé ce matin et je me suis rendu compte qu'on était le 22 mai. » Et puis celle-là vient me donner des ordres. Je suis plus esclave. J'ai dit, bon, en tout cas, fais gaffe parce que tu vas te faire virer. Mais il y a toujours chez nous, en quelque part, que ce soit ici ou en Afrique, une notion d'esclavage. Et la Bible dit, pourtant, tu, esclave tu es. Parce que tu es esclave de ceux ou celui qui domine sur toi. Vrai ou pas? Et aujourd'hui, il y a quelqu'un ou quelque chose qui domine sur toi. Ça peut partir du couple. Ça peut arriver aux enfants et continuer, et continuer, et continuer très loin. Nous nous rendons nous-mêmes esclaves. Et après, on a du mal à s'en sortir. Tu es esclave de ceux qui, ou de celui qui domine sur toi. Et nous avons beaucoup de systèmes dans notre société qui nous rendent esclaves. Aujourd'hui, je m'en vais, j'ai oublié mon portable, je reviens. Non ? Mince alors, je suis devenu esclave. Ça, c'est dans le prolongement de ma main, le portable. Esclave des réseaux sociaux, esclave de télé-réalité et puis plein de bêtises. Esclave même des décisions que nous prenons nous-mêmes, des mauvais choix que nous faisons. Et on a du mal à s'en sortir. On veut s'en dégager, mais prisonnier, et je me souviens de l'apôtre Paul quand il disait « Misérable que je suis, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je veux pas, c'est ce que je fais. » Et à chaque fois, on s'est ressenti dans la, trouvé dans la position de Paul à crier « Mais comment je vais m'en sortir ?» Et que dire de la drogue? Que dire de l'alcool, de certaines fréquentations? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais il est gentil. Il n'est pas méchant. Mais il m'entraîne loin. Loin de ce que j'ai connu comme vérité. Et que dire aussi des paroles de malédiction que nous avons reçues de nos parents ou d'autres qui nous poursuivent, qui nous rendent esclaves parce qu'on m'a toujours dit que j'étais comme ça, on m'a toujours dit que tu ne feras jamais rien de bon, on m'a toujours dit, et puis voilà, esclave des paroles. Attention aux paroles que nous prononçons. Vous avez observé, dès le début, je parle d'esclave. Mais le terme ici, c'est esclave. Et certaines versions, ne jetez pas votre Bible pour autant, hein, on traduit serviteur. Alors, je me suis posé la question, quelle est la différence entre serviteur et puis esclave? Vous savez? Et quand un serviteur, le serviteur, c'est comme l'employé, il offre ses services. Il peut négocier. Je ne travaille pas le samedi, hein. Je ne travaille pas le dimanche, je ne travaille pas les jours fériés. Il est serviteur, il est esclave. L'esclave, il offre tout, et singulièrement l'obéissance. Il n'a pas droit au syndicat, il n'a pas droit au RTT, il n'a pas droit au jour payé. Il n'a droit à rien sinon fermer sa bouche et de travailler. Je mens ou pas? Et on se rend compte qu'on est esclave en quelque part. Hein. Quand le patron te dit, tu fermes ta bouche parce qu'il y a d'autres qui sont à la porte en train d'attendre. On bosse. Et même quand on ne comprend pas ce qu'on fait, on bosse quand même. Alors, je ne vous apprends rien si vous êtes si vous avez étudié nos ancêtres, aux ancêtres les Africains. Vous saviez qu'il y avait le marché des esclaves et qu'il y avait des maîtres qui arrivaient et qui achetaient. Et j'ai envie de dire vulgairement, c'était la marchandise au plus offrant, la bonne marchandise. On achetait les plus costauds, les plus vaillants. Et ces derniers étaient censés, obligés de suivre leur maître, leur nouveau maître. Si le serviteur négocie, l'esclave ne négocie pas. Et l'esclave appartient à ce maître désormais qui exerce sur lui un pouvoir absolu. Et sous la contrainte, il exécute. Vous avez le sentiment quand Paul dit qu'il est esclave du Christ, qu'il exécute, qu'il a un maître au-dessus de lui. Il n'y a rien de plus dérangeant qu'un patron ou un supérieur, N+, qui passe derrière vous et puis qui regarde ce que vous faites. Il ziote à chaque fois. On n'a plus le droit de regarder son portable ou bien de descendre faire une pause cigarette ou une pause pipi. On n'a pas le temps. Intérêt là. On est esclave. Oui ou non? On n'a plus les chaînes, mais il y a quelque chose qui nous retient. Et l'esclave appartient à ce maître, il est privé de liberté, et avec le temps, j'ai envie de dire, il devient un être déshumanisé, avili. Il ne ressemble plus à rien, parce que le travail le bouffe intérieurement. Hélas, quand on regarde des gens à 30 ans, ils ressemblent à des gens à 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils bossent, ils bossent parce qu'il faut bosser. Ils n'ont pas le choix. Esclave. Et même quand on dit, oh, c'est dimanche, c'est férié, tu vas travailler, mais oui, on va travailler parce que le patron a dit à travailler. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, au moins 35 à 50 millions de gens, hommes, femmes, enfants, sont encore esclaves aujourd'hui. 35 à 50 millions. C'est que l'esclavage a changé de fond et de forme. J'étais en vacances à Nantes avec ma famille, je ne sais plus quand, et on pouvait visiter, on a visité le musée de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le musée de l'histoire, mais vous avez tout un parcours de l'esclavage depuis Gorée. Et c'est impressionnant de voir tous les pays qui était plongé sous l'esclavage, l'homme manipulé par l'homme, exploité par l'homme, c'était non seulement mondial, mais odieux. Alors, évidemment, la communauté noire pense toujours que c'est elle qui a été pris esclave. Mais bon, on ne peut pas défendre la cause des autres. Mais nous savons ce que nous étions. Et c'est là que je veux attirer notre attention ce matin sur notre statut. Ne jamais oublier qui on était, d'où on venait. C'est pas Afrique ou bien l'un d'autre, mais pécheur perdu, étranger à Dieu, sans droit de cité dans le ciel. Parce que Christ aussi est appelé maître. Et Christ est venu en tant que maître acheter des esclaves. Imaginez, nous sommes sur une plantation. Tous, blancs, noirs, chinois, jaunes, tout ce que vous voulez. Nous sommes sur la plantation de coton. Et le maître vient nous délivrer parce qu'un autre maître, Satan, est venu nous pousser à la désobéissance au Dieu créateur. Et ce maître-là, il nous achète. Et vous allez trouver dans Romains chapitre 3 une expression liée à l'esclavage. C'est le mot rédemption ou rachat. Ce maître Jésus-Christ vient et nous achète, ou nous rachète, et dit tu es libre.
Amen.
Allô? Il ne nous dit pas tu es désormais à mon service, et tu es libre. Et à l'époque, certains esclaves à qui on rendait la liberté voulaient rester attachés à leur maître. Regardez Romains chapitre 3, verset 23. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat qui est dans le Christ Jésus. Tous ceux qui ont cru et qui ont accepté, qui ont dit, moi, monsieur, je vais être libéré, ont la liberté. Est-ce que vous avez l'impression que devenir chrétien, c'est un esclavage? Non? Parce que vous dites, mais si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est vrai? Bibliquement parlant, oui. Sommes-nous réellement libres de tout faire? Ah, donc on n'est pas libre. Vous comprenez ce que je dis? Donc nous sommes dans un combat, dans un dilemme avec nous-mêmes, avec cette liberté-là. Et pourtant, la liberté que Christ nous offre est synonyme de vie éternelle. C'est une autre espérance. Et si aujourd'hui je suis libre, je me dis libre. Regardez dans... parce que quelqu'un m'a dit une fois, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas esclave du Christ. Il dit, libre à toi. Regardez Romains chapitre 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Donc, en tant que chrétien, si je me livre au péché, je suis esclave du péché. Soit dans l'obéissance qui conduit à la justice. Or, Dieu veut l'obéissance. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine ou de foi qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. L'auteur de la justice est Christ, n'est-ce pas? Je parle à la manière des hommes, puisque à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrons nos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Donc nous sommes dans ce combat tous les jours de notre vie jusqu'à la complète libération. Et c'est le frère Adrien, je crois dimanche dernier, qui disait qu'on était sauvé, qu'on était en train d'être sauvé, pour être sauvé définitivement. Vous comprenez le processus? On est sauvé du péché. Mais Dieu sait que durant notre parcours ici-bas, ça va pas être du gâteau. La Bible n'a jamais dit que la vie chrétienne, c'était un long fleuve tranquille. Mais Dieu veut que nous puissions prendre conscience que tout au long de notre marche, Dieu est là pour nous arracher des combats. Et nous sommes loin de penser des combats que Dieu mène avec ses anges et puis toute son armée contre l'ennemi de nos âmes. Nous sommes au bénéfice de grâce sur grâce ici-bas en attendant d'être définitivement... Enfin, il n'y a rien. C'est pas si vous avez déjà vu une volée de pigeons ou une volée, quand vous ouvrez le poulailler et puis les poules s'en vont parce que vive la liberté. Et quand je suis converti, j'avais quoi, 20 ans, on m'a dit, ah, mais t'es fou, toi. T'as rien d'autre à faire. Il y avait d'autres choses à faire, oui. Mais j'ai dit, je suis devenu fou de Jésus-Christ. Et on m'appelait Monsieur Pieux. Chaque être humain, explique Paul, est esclave soit de Satan, soit du Christ. Alors ma question est, es-tu esclave du Christ ou es-tu esclave de quelqu'un d'autre? Parce qu'avec Christ, on ne négocie pas. C'est oui et amen, n'est-ce pas? C'est comme si vous négociez avec un terroriste, c'est pas possible. Tu auras toujours le dernier mot. Vous connaissez l'histoire du scorpion? Non. Le scorpion demande à je ne sais plus quel animal, quel bestiaux de mettre sur son dos et pour traverser le fleuve. Il dit, mais tu me piques pas, hein? Il dit, mais non, que tu me fais suivre, traverser le fleuve. Et arrivé de l'autre côté, il pique quand même. Il dit, mais c'est ma nature. Je ne pouvais pas faire autrement, c'est ma nature. On ne négocie pas avec Satan, on ne négocie pas avec le Christ non plus, c'est oui et amen. Et aujourd'hui, quand tu as dit oui à Christ, ne regarde pas en arrière. c'est un conseil. La croix est devant toi et tu dois toujours te souvenir de la croix. Et Christ est venu te libérer et jamais, jamais tu ne dois nier qui tu étais, ni regarder les autres d'en haut, l'air de dire ils sont pires que toi, mais ils ont été pires. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre, dit la parole. Et donc, sommes-nous pour autant vraiment libres de faire tout ce que vous voulez, tout ce que nous voulons, pardon? Alors, si oui, pourquoi le dimanche matin, tu te déplaces chez toi pour venir louer le Seigneur et tu n'ouvres pas la bouche? Ah, je vais faire des mécontents ce matin. Si tu prends la peine de dire oui, je suis libre. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te loue, je t'adore. Mais dis-le pour que Satan l'entende. Et chaque fois, je suis sûr, vous êtes parti du temple, du culte, et vous avez dit messe. J'aurais dû donner gloire à Dieu. J'aurais dû élever la foi et louer mon Seigneur. J'aurais dû témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine. J'aurais dû, mais avec des si. si j'avais su. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, chers frères et sœurs. N'est-ce pas? Dieu ne nous a pas libéré un pied. Vous savez, avec les éléphants, on leur attache depuis petit pour les éduquer, pour les dresser, on attache une patte, et même quand ils sont libres, ils bougent pas parce que ils ont toujours la patte attachée dans leur conscience. Mais si Christ t'a libéré, tu es réellement libre. Alors, si tu ne peux pas ouvrir la bouche pour louer le Seigneur, dis Seigneur, je t'aime, je veux continuer à te servir, je suis ton esclave. Qu'est-ce qui te retient? Peut-être c'est le regard des autres. Qu'est-ce qu'un tel va dire? Qu'est-ce qu'un tel va penser? Et on peut se poser plein de questions, mais ça ne donne pas la réponse. Parce que ce que Satan veut, c'est que tu fermes la bouche pour ne pas donner gloire à Dieu. Mais parce que Christ m'a libéré, je me souviens de mes enfants, chaque fois qu'ils rentraient du culte, ils faisaient un procès à leur maman. Parce que maman, il est toujours main levée à chanter, à louer. Il dit, maman, il est toujours là, levée la main. Il dit, mais jamais personne ne va m'empêcher de louer mon Seigneur. Faites ce que vous voulez, mais moi, Christ m'a libéré. Bon. Et je disais, mais restez là, parce que vous devriez apprendre aussi à le louer. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, ici, bas, dans la petite communauté, tu auras un problème là-haut. La sœur Josiane qui a lu le texte de l'Apocalypse 5. Les 24 anciens et tous les êtres chantent, louent. Siècle des siècles, saint, 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 et puis louange, honneur, gloire. On n'aura rien d'autre à faire là-haut que ça. Alors, entraîne-toi des ici-bas. Chante, loue. Continue de chanter, Lisa. Nous aurions des questions à poser, à nous poser. Mais le mot esclave, quand Paul utilise l'expression ici, c'était un petit peu comme dans l'Ancien Testament.
Pardon.
Ce haut fonctionnaire, parce que Christ n'est pas n'importe qui. S'il est sauveur, s'il est roi, s'il est roi des rois, s'il est créateur, s'il est seigneur des seigneurs, ce n'est pas n'importe qui. Si je suis son esclave, je suis un haut fonctionnaire. Non? Et donc, je lui dois, je n'ai pas à négocier avec lui, je n'ai pas à réfléchir si je dois le servir ou pas, si je dois le louer ou pas. Ça doit couler de source. Et je dis, il viendra le moment où j'aurai des problèmes. Je ne dois pas me poser la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Sinon, la louange. C'est la première mission du chrétien. Ne sois pas un disciple marron. Vous connaissiez les esclaves marrons? Le marronnage, c'était une sorte de rébellion vis-à-vis du maître. qui donnait suite à la fuite. La fuite donnait suite à ce marronnage-là. On se révoltait. J'ai habité un quartier en Martinique. Et dans le prolongement de cette section ou quartier, je ne sais pas comment vous l'appelez, cela s'appelle Mon Congo. Alors, on s'est renseigné pour savoir pourquoi ça s'appelait Congo, Mon Congo. Et mais c'est parce qu'il y avait des nègres marrons venant du Congo qui s'étaient réfugiés dans le coin. Des esclaves. Et on retrouve des noms comme Lakembe, Mkibi, Mbeni, dans le secteur. J'ai failli être congolais. Mais Dieu veut que cette forme d'appartenance à Christ nous ramène à une pleine liberté, à une pleine conscience de ce que nous étions, ce que nous sommes. La croix est au centre de notre vie, tout comme la mort est ce que Paul veut mettre en évidence, la mort du Christ, pour que nous puissions avoir ce point de départ. C'est la croix du Christ qui fait que aujourd'hui je suis là, tout est accompli. Et si je peux dire aujourd'hui j'aime mon patron, il est cool. Je n'ai pas le droit de me garder des réserves pour dire j'adore Jésus. Vous comprenez? Si j'aime mon patron ici-bas, je dois adorer Jésus. Parce que c'est le meilleur des patrons. Donc, il y a eu cet événement, il y a eu ce changement de statut chez Paul. Et forcément, ça fait réfléchir sur notre autre foi. J'étais esclave. Maintenant, je suis libre en Christ. Mais je suis devenu quand même son esclave. Parce que c'est à lui seul. S'il y a un choix à faire, il n'y a pas photo. Je choisis Christ. Et parce que j'ai choisi Christ, tu peux dire ce que tu veux. Je vais devant. La croix est derrière, la terre est derrière moi avec tout ce qu'elle m'offrait. Et quand bien même la malédiction a été ce qui accompagnait beaucoup d'esclaves et beaucoup étaient jetés, tués par-dessus bord, la solitude là, dont on a dressé son statut à Paris cette semaine, la semaine dernière, elle a été arrêtée, c'était une battante, elle a été arrêtée, elle était enceinte. On a attendu qu'elle ait accouché, on l'a pendue. Bon. C'est une forme de malédiction, peut-être on dira, pour tous ceux qui se rebellent. Et donc, plutôt que de vivre ces choses-là, reste gentil. Mais avec Jésus, nous devons être des audacieux, des combattants. J'ai aimé la dernière fois l'audace d'Adrien. Il disait, quand on dit... Il y a Mbappé qui sort, tout le monde applaudit, tout le monde crie Mbappé. Et j'ai vu ça encore à la télé hier soir. Mais quand il s'agit de Christ, je dois jubiler. Je dois crier plus fort. Parce que c'est lui mon sauveur, c'est lui qui veut être mon Seigneur. Parce qu'il peut être ton sauveur. Mais il attend qu'il soit ton Seigneur. Et c'est à chacun de nous de travailler pour que l'esclavage ne revienne pas sous une autre forme dans notre vie et que nous ne puissions pas dire « Que voulez-vous, c'est comme ça, c'est pas autrement. » Avec Christ, tout peut changer. N'est-ce pas? Je peux renoncer à tous les appâts que l'ennemi dresse devant moi. Et ça a différentes formes. Et quand vous lisez Matthieu, j'aime ce texte-là où il est question des signes des derniers temps. Vous savez, le premier signe des temps qui arrive, c'est la séduction. Or, la séduction, on pourrait en dire des choses dessus. Hein? C'est pas seulement homme, femme, 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 et etc., tout ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? C'est bien des formes de séduction subtiles que Satan met devant nous, et finalement, le chrétien tombe dedans aveuglément. Restons attachés au Seigneur. Amen. Et à sa parole. Et que Dieu nous guide. Amen.